Donc la psychobioacupressure, c'est une technique qui a deux aspects. Donc le premier aspect, qui est d'ailleurs ce que je développe en premier quand quelqu'un vient me voir en consultation, c'est de remettre les énergies des gens en place. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, notre cerveau, c'est un genre d'ordinateur et la pensée, c'est de l'énergie. Donc la preuve que la pensée, c'est de l'énergie, c'est que si j'étais contrarié, vous le sentiriez. Hein, même si j'essayais de vous le cacher, tout ça, vous sentiriez cette énergie de contrariété qui émane de moi. De toute façon, tout est énergie, on le sait bien depuis Einstein. Donc, en fait, quand on fonctionne en négatif, on se remplit d'énergie négative, ça prend la place de l'énergie normale, notre voltage baisse et notre cerveau se met à bugger. C'est exactement ce qui se passerait si vous vous amusiez à mettre moitié eau, moitié essence dans le réservoir de votre voiture. Vous verriez que vous n'iriez pas très loin. Le sujet est d'actualité d'ailleurs en ce moment. Donc, en fait, le but de la manœuvre déjà, c'est en appuyant sur 5 points du corps, de créer une énergie antidote de toutes les énergies qui nous perturbent. C'est-à-dire que si je me réveille le matin, que j'ai trop de pression sur moi, vous savez que trop de pression, ça finit par amener à la dépression. Eh bien, je vais appuyer sur les 5 points de mon corps qui correspondent aux 5 points de la dépression. Il y a une énergie qui va tourner entre les 5 points et cette énergie de trop forte pression qui pourrait m'amener à la dépression va partir. De la même façon, si je suis en colère. De la même façon, si je suis obsédé par un problème. Donc, le premier aspect de la PBA, c'est vraiment d'autogérer toutes les émotions qui nous perturbent. L'histoire de la PBA, c'est très simple. Je l'ai raconté dans mes livres, mais pour ceux qui ne les ont pas lus, je vais revenir là-dessus. C'est parti au départ d'une technique d'acupuncture à 5 points. Cette technique était enseignée il y a très longtemps en Chine et ressurgit en France il y a une vingtaine d'années, aussi en Australie. Et donc, cette acupuncture à 5 points partait du principe que quand on stimulait 5 points en même temps, ce n'était plus les points d'acupuncture qui agissaient isolément, mais l'énergie d'un circuit imprimé qui tournait entre les 5 points. Donc, j'avais suivi un stage par rapport à cette acupuncture-là et j'avais voulu essayer ça, bien sûr, sur mes patients. Mais cette acupuncture, en fait, était ciblée plutôt pour des problèmes physiques. Il y avait des circuits pour l'hypertension, il y avait des circuits pour les douleurs, il y avait des circuits pour l'asthme, etc. Donc j'avais essayé ça ensuite sur mes patients, après avoir suivi un stage là-dessus. Mais ce qui m'avait beaucoup étonné, c'est que j'arrivais peu à les améliorer au point de vue physique. Mais tous, quand ils revenaient me voir, me disaient: Mais qu'est-ce que vous m'avez fait pour que je sois si bien dans ma tête? Alors je me suis dit, tiens, si ça se trouve, il y a un effet psychologique dans ces circuits. Et donc, parmi les 200 ou 250 qu'on m'avait donnés, j'en ai sélectionné une vingtaine qui agissent essentiellement donc sur la dépression, sur l'anxiété, sur ce qu'on appelle le mental négatif, sur les obsessions. Il y a des circuits qui remettent les plombs qui ont sauté, en quelque sorte. Il y a des circuits qui rechargent en positif. Et donc, j'ai développé à partir de là, donc d'abord une façon de traiter par acupuncture. Mais dans un deuxième temps, je me suis dit, oui, c'est embêtant de ne pas pouvoir soigner des enfants ou des bébés. Parce que les enfants ou les bébés, ça peut être dépressif. Vous savez qu'un bébé qui sort de couveuse, eh bien, il est déjà dépressif. Mettons qu'il soit né par césarienne, il est resté pendant 9 mois dans le ventre de sa mère, dans les vibrations de sa mère. On l'enlève brutalement, on le met dans une couveuse. Eh bien, il est dépressif instantanément. Donc, je me disais, il faudrait pouvoir soigner ces bébés, mais comment faire puisque les aiguilles avec les bébés, ben, ils vont se blesser, etc. Donc, dans un deuxième temps, j'ai été amené à utiliser des patchs qui contenaient des billes et ces billes appuyées sur les points d'acupressure. Ça a marché, mais ça mettait un quart d'heure environ à agir. Chaque fois que je faisais un circuit, ça mettait un quart d'heure à agir. Enfin, j'étais content et j'ai utilisé ça donc ensuite sur les bébés. Puis plus tard d'ailleurs sur les parents, parce qu'il y a des parents qui ne supportent pas du tout les aiguilles. Ça en serait resté là. Donc, j'avais une clientèle qui grossissait. À l'époque, j'avais mon cabinet à Nouméa. J'étais de plus en plus réputé pour savoir traiter les états dépressifs, les états psychologiques perturbés, les obsessions, les anxiétés généralisées. Donc j'arrivais à de très bons résultats. Mais bien sûr, j'étais toujours tributaire de ces patchs et de ces aiguilles. Jusqu'au jour où un jour, étant en vacances chez des amis, leur fille faisait une dépression carabinée. Ça se passait à Melbourne, mais il est évident que moi, je n'avais pas sur moi ni des aiguilles ni des patchs. Et je me disais, comment est-ce que je pourrais aider cette petite? Alors, comme je vous l'ai dit, Le principe de départ, c'était qu'en stimulant 5 points en même temps, on arrivait à créer un circuit imprimé dans lequel circulait l'énergie qu'on voulait utiliser pour chasser un état négatif. Alors, cette petite qui était dépressive, je me disais, bon, ben, il faudrait pouvoir l'aider, mais je n'ai pas d'aiguille ni de patch, comment je vais faire? Alors, je me suis dit, ben, voilà, il faut stimuler 5 points par la pression, mais en même temps, et je n'ai que 2 mains. Alors, c'est là que je me suis dit, ben, écoute, ce que tu vas faire, tu vas appuyer sur les points, mais suffisamment fort pour que la mémoire de la pression reste dans les tissus sous-cutanés quand tu arrives au 5e point. Et donc, pour être plus sûr de toi, tu vas faire ça 3 fois de suite. Alors j'ai fait ça 3 fois, donc le circuit contre la colère, puis le circuit contre la dépression, puis le circuit contre l'obsession, etc. Mais ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que non seulement ça a marché, mais ça a marché immédiatement. Alors que quand j'utilisais les aiguilles ou quand j'utilisais les patchs, mes circuits mettaient 1 quart d'heure pour agir. Eh bien, quand j'ai agi, rien qu'en appuyant avec mes mains, ça a agi instantanément. Donc là, c'était vraiment une grosse avancée, puisque je me suis rendu compte que donc il n'y avait plus besoin d'avoir des moyens comme des aiguilles ou des patchs. Et d'ailleurs, sur ces entrefaites, quand je suis rentré à Nouméa, comme par hasard, mais vous savez que le hasard n'existe pas trop, eh bien, comme par hasard, mon fabricant de patchs a fait faillite. Et donc, je ne recevais plus de patchs et j'ai bien été obligé de me débrouiller avec les mains. L'étape suivante, ça a été quoi? Ben, ça a été que puisqu'il n'y avait plus de besoin de matériel, je me suis dit, après tout, ce que je fais moi, peut-être que n'importe qui peut le faire. Surtout que sur ces entrefaites, il y a eu un psychiatre qui est rentré dans mon bureau et qui m'a dit, tu sais, ce que tu as reçu, tu dois le partager. Alors ça, c'était bien gentil, mais adieu tranquillité. Parce que moi, j'avais mon cabinet qui marchait bien, j'avais des rentrées qui étaient conséquentes. Et puis brusquement, partager, ça veut dire fermer mon cabinet et enseigner ça un peu partout dans le monde. Enfin, je me suis dit, allons-y, mais d'abord, il faut voir si c'est transmissible. Donc, pour voir si c'est transmissible, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais réunir quelques personnes et je vais leur montrer comment on fait les points, mais je ne vais pas les toucher pour être sûr que ça soit eux, par leur action, qui arrivent à gérer leurs états émotionnels. J'ai commencé donc à organiser un premier stage, c'était à Nouméa donc. Ce à quoi une personne m'a dit, non, non, ça marchera jamais. Je lui ai dit, pourquoi? Elle me dit, parce que toi, quand tu appuies sur les points, il y a ton âme qui pousse derrière. Elle n'avait pas trop tort, en fait, hein, parce que je me moque un peu, mais c'est vrai que, vous savez que s'il y a des acupuncteurs ici, on a tendance à dire que l'énergie va où va l'intention. Donc, mon intention était peut-être ce qui faisait que ça agissait. Bon. Alors, comment faire pour savoir? Ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai reçu 8 ou 9 personnes dans un premier stage. J'ai vérifié dans quel état énergétique ils étaient. Et après, je leur ai appris à se faire les circuits les uns sur les autres. Et à la fin du stage, 1 jour et demi après, je me suis rendu compte qu'ils étaient tous parfaits. Alors que ceux qui étaient sur la dépression ou ceux qui étaient sur l'obsession en arrivant, eh ben, le lendemain midi, ils étaient parfaits. Donc, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus du tout besoin que ça soit moi qui intervienne. Et c'est comme ça que, donc, est arrivé ce premier livre qui s'appelle 5.1. C'est tout. Hein, vous l'avez là. Et dans lequel j'enseigne un moyen excessivement simple, parce que c'est vraiment à la portée de tous, un moyen excessivement simple de gérer ses émotions. Hein, moi, si par exemple je vois que j'ai un petit peu le trac juste avant de vous voir venir m'écouter, eh bien j'appuie sur les 5 points. Hein, il y a 5 points pour l'expression. Voilà, ça se fait dans toutes les circonstances, ça se fait n'importe où. Voilà, j'ai appuyé sur mes 5 points. Bon, et je vous assure que c'est une technique qui mène à tout. Hein. Pour vous dire, l'autre jour je décollais de Hong Kong et puis on demande un médecin. Bon, moi, je fais semblant de dormir pour commencer parce qu'il y a bien longtemps que je ne fais plus d'urgence, je ne fais plus tout ça. Hein, moi, ça fait 20 ans que je m'occupe de cette histoire-là, hein, il ne faut pas croire. Et donc, quand même, à la 3e annonce, j'ai dit, bon, ben, je vais y aller. Alors, je vais voir l'hôtesse. Je lui dis, vous savez, je suis quand même plus ou moins à la retraite, tout ça, il y a bien longtemps que... Mais elle me dit, ben, venez voir. Et il y avait couché en travers de l'allée centrale, enfin, juste devant une allée de secours, une sortie de secours, il y avait une personne qui faisait manifestement une crise de panique. Où j'ai dit ça, ça me connaît. Je lui ai fait le circuit contre la panique, tout le protocole, hein, l'anxiété, la colère, tout ça. Mais 5 minutes après, elle était tellement bien. Mais les hôtesses, elles m'ont dit, mais pourquoi on ne nous apprend pas ça à Air France? Première chose. Deuxième chose, et c'est surtout là que c'est intéressant, dans la foulée, on m'a surclassé et j'ai fait Hong Kong, Paris, couché. Alors là, je peux vous dire que j'ai apprécié le fait de connaître ça. Voilà. Donc ça, En fait, c'est une hygiène de vie. On devrait tous les matins se mettre bien. Moi, tous les matins, je me fais mes circuits. Et je vous avoue que le jour où j'ai pas envie de le faire, eh ben, c'est que déjà je suis mal. Parce que l'énergie négative nous attire en permanence. En fait, c'est comme la force de gravité avec les avions. Un avion, pour rester en l'air, il a besoin sans arrêt de tirer sur les réacteurs. Dès qu'il arrête de tirer, il va descendre. Eh bien, l'énergie négative, c'est la même chose, ça nous attire en permanence. Donc nous, pour rester en positif, il faut qu'on fasse un effort conscient en permanence. 5 minutes. En 5 minutes, quand on connaît les circuits, vous voyez, il y a 3 ou 4 circuits à se faire tous les matins pour s'entretenir. Un contre le mental négatif, un contre l'anxiété, un qui recharge en positif. Et puis éventuellement, si j'ai trop de pression sur moi, parce que je sais que j'ai une conférence, parce que je sais que j'ai des ateliers, ben, je vais me faire le 1 contre la dépression. Vous voyez, mais ou s'il y a un peu de colère parce que c'est mal organisé, etc., pof, je fais le 10. Vous voyez, mais ça se fait très vite. Une fois qu'on sait où sont les points, ça se fait très vite. Donc, ça permet de se gérer au point de vue émotionnel. Bon. Mais il y a un autre aspect de la PBA, et c'est surtout de celui-là que je veux vous parler aujourd'hui, c'est que la PBA permet aussi d'enlever les blocages émotionnels. Et ça, c'est une évolution fantastique, parce que c'est très rapide. La plupart du temps, en 1 à 3 séances, on arrive à enlever des blocages émotionnels qui nous gâchaient la vie depuis qu'on était petit. Alors, qu'est-ce qu'un blocage émotionnel? Un blocage émotionnel, c'est un conditionnement acquis, mais qui nous, une fois qu'il est installé, qui nous empêche de vivre comme on devrait vivre. Je vous donne un exemple tout bête. Imaginez un enfant qui est en CP et pendant 1 an, on lui dit tu es nul. Eh bien, quand il a 25 ans, il a un matelas de diplôme épais comme ça, on lui propose un bon job, il dit je suis pas capable. Eh bien, ce n'est pas lui qui a réagi, c'est le conditionnement qui s'est fabriqué quand il était en CP. Et on a comme ça des dizaines et des dizaines de blocages émotionnels. Comme je vous disais tout à l'heure, le bébé qu'on met par exemple en couveuse, eh bien, il passe déjà sur la panique d'être abandonné. Eh bien, quand il aura 25 ans, au moment de s'investir dans une relation amoureuse, il aura tellement peur d'être abandonné qu'il ne s'investira pas, qu'il va toujours faire de mauvais choix. Les gens souvent qui font des mauvais choix dans leur vie affective, ce sont des gens qui tout bêtement ont la peur d'être abandonnés. D'ailleurs, je me souviens d'une anecdote, et on en reparlera tout à l'heure, parce que ces blocages se fabriquent surtout dans la petite enfance. Eh bien, il y a un jour, une dame vient me voir, elle me dit, voilà, il m'arrive un truc bizarre. Tant que je ne suis pas amoureuse, ça va très bien, et dès que je tombe amoureuse, en 3 mois, ça casse. Et comme ça fait 5, 6 fois que je crée ce schéma, je me demande si ce n'est pas moi qui ai un problème. Avec la technique que je vous expliquerai tout à l'heure, je cherche ce qu'elle a comme blocage, eh bien, effectivement, elle avait la panique d'être abandonnée. Donc, comme elle avait la panique d'être abandonnée, je vous l'ai dit, elle ne s'investissait pas. Quand je lui dis ça, elle me dit, mais je m'en souviens comme si c'était hier et j'avais 3 ans. Ma mère devait aller à la ville et elle m'a posé chez la voisine. Eh bien, j'entends encore le cri que j'ai poussé quand je me suis retourné et que je n'ai pas vu ça de ma mère. Vous vous rendez compte? Donc, un événement minime chez un enfant va vous fabriquer des blocages. Pourquoi? Eh bien, on va en parler tout de suite. Eh bien, c'est parce que les enfants n'ont pas cette partie du cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal qui fonctionne. Donc, quand on va avoir une émotion qui créée par une peur la plupart du temps, eh bien, cette émotion va aller se mettre tout de suite dans le cerveau émotionnel. Et puis ensuite, le cerveau émotionnel, comme il ne veut plus en souffrir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre une plaque de béton par-dessus. Mais de derrière la plaque de béton, ça va orienter notre comportement en permanence. Voilà, donc les blocages émotionnels, c'est ça. Ce sont des choses qui agissent à notre insu, mais qui sont devenues imparables. Vous voyez, c'est ça le gros problème des blocages émotionnels, c'est que ce sont comme des aiguillages sur la voie ferrée. Je décide d'aller de Paris à Bordeaux. Et il y a un aiguillage à la sortie de la gare d'Austerlitz qui envoie vers Orléans ou vers Lyon. Eh bien, je vous assure que je ne peux rien faire. Je vais donner 1 milliard au chef du train, il sera incapable de m'amener à Bordeaux. Il fera peut-être dérailler son train s'il veut essayer de passer par-dessus l'aiguillage, mais on n'arrivera jamais à Bordeaux. C'est ça les blocages émotionnels. Et en plus, moi, en tant que passager du train, je ne vais même pas me rendre compte que j'ai pris un mauvais aiguillage. Quand vous êtes dans un train, vous ne voyez pas si le train prend une mauvaise direction. Il n'y a que quand vous arrivez à la mauvaise gare ou près de la mauvaise gare que vous dites, c'est pas là que je voulais aller. Ben voilà, les blocages émotionnels, ce sont donc ces conditionnements. Eh bien, on va réussir à agir par la PBA sur ces conditionnements. Je vais vous expliquer comment. Mais ce qu'il faut déjà comprendre, c'est qu'il y a trois règles d'or que je dis toujours aux patients qui viennent me consulter. La première, et c'est là que c'est la grosse différence entre la PBA et la plupart des autres approches pour enlever les blocages. La première chose, c'est que les blocages, ça ne sert à rien, à mon avis, de chercher leur cause. Voyez, vous avez votre aiguillage sur la voie ferrée. Est-ce que l'important, c'est de savoir, d'enlever l'aiguillage pour que le train aille tout droit? Ou est-ce que l'important, c'est de savoir comment s'appelait le chef de gare qui l'a mis, quel temps il faisait ce jour-là, quand est-ce que ça a été mis? La plupart du temps, c'est du temps perdu. Et en fait, on se retrouve toujours avec notre aiguillage sur les bras. Vous voyez, c'est ça la grosse différence entre la PBA et les autres méthodes, et surtout les plus anciennes. La deuxième chose, c'est que je dis toujours aux patients, attention, ne vous appropriez pas vos blocages. Je vais vous trouver vos blocages, je vais vous les enlever, mais ça n'a rien à voir avec votre nature. Donc, ce ne sont pas des défauts. Quand vous entendez la liste des blocages qui s'allonge, ne croyez pas que vous avez plein de défauts. Hein, ce sont des choses qui vous empêchent d'être vous-même. Et la troisième chose, effectivement, c'est, comme je leur dis en plaisantant, plus je vais vous trouver de blocage, plus vous allez aller bien. Alors, je vous expliquerai après comment on trouve les blocages, mais maintenant, je vais vous expliquer par quel phénomène la PBA permet d'enlever les blocages. Alors, donc, on a dit que les blocages étaient dans cette zone-là, le cerveau émotionnel, donc, qui contient l'amygdale en particulier et l'hippocampe. L'amygdale, c'est celle qui stocke les peurs et elle existe déjà dès le plus jeune âge. L'hippocampe, c'est ce qui permet de s'adapter à la situation pour avoir une réaction qui va être orchestrée par rapport à la situation donnée si elle se représente. Mais en fait, ça va créer donc un épaississement des synapses. Qu'est-ce que c'est? Là, on rentre dans le domaine de la neuroplasticité. Vous savez que les synapses, c'est les relations entre les neurones. Donc, vous avez un neurone qui est censé être là, il y a un filament qui est là, et là, il y a une sorte de râteau de chaque côté, on appelle ça des synapses. Et l'information va arriver par là, va arriver là. Là, il va y avoir une sécrétion de substances qu'on appelle des neuromédiateurs, qui va repasser l'information au neurone suivant, et ça va repartir par là. Pour s'habituer à cette situation qui le gêne, donc l'hippocampe crée un épaississement des synapses, ce qui fait qu'on va avoir de plus en plus de synapses. Vous voyez ? Mais qu'est-ce que ça va faire ? Mais ça va obliger l'influx nerveux à prendre toujours le même chemin. C'est ça le gros problème. Et comme l'influx nerveux prend toujours le même chemin, par rapport à une même situation, on va toujours réagir de la même façon. Et c'est ça un blocage. Ça nous oblige à réagir sans arrêt de la même façon. Alors, comment la psychobioacupressure, donc la pression des 5 points, va agir? Alors, comme je vous l'ai dit, la première chose, donc, et je vous expliquerai tout à l'heure comment on fait, la première chose, c'est de trouver les blocages. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va verbaliser le blocage. Par exemple, on va dire à la personne, tiens, j'ai trouvé chez vous la panique d'être abandonné. Quand la personne entend que la panique d'être abandonné, donc on ramène ça de son inconscient à son conscient, eh bien l'information va ressortir de cette zone du cerveau émotionnel et là, ça va être capté par le cortex préfrontal dont le rôle est d'évacuer les émotions. Et ça va se faire comment? D'abord, il y a trois aspects. Le premier aspect, c'est l'action énergétique des circuits d'acupuncture et d'acupressure donc. Pourquoi? Parce que il y a le professeur Amassian de l'université de Baltimore qui a découvert que chaque point d'acupuncture avait sa correspondance dans certaines zones du cerveau. Et même d'ailleurs, ce sont des zones qui correspondent à des organes, mais ce sont des zones qui se chevauchent. On appelle ça les overlaps d'Amassian. Ce qui explique d'ailleurs qu'un point d'acupuncture puisse donc agir sur plusieurs organes. C'est qu'au niveau du cerveau, l'endroit où est le point d'acupuncture correspond à plusieurs organes. Donc, quand je vous fais un circuit de 5 points d'acupressure, eh bien, ce circuit existe déjà aussi dans le cerveau. Et l'énergie qui tourne dans le circuit imprimé tourne autour dans le cerveau, tourne déjà dans le cerveau. Donc, la première action, c'est quoi? C'est une action d'interférence. C'est-à-dire que, puisque la pensée, c'est de l'énergie, Si je vous dis, vous avez peur d'être abandonné, vous ne pensez pas au temps qui fait, vous pensez à ce que je viens de vous dire. Donc vous fabriquez l'énergie correspondant à la peur d'être abandonné. Et cette énergie va rentrer en interférence avec l'énergie qui tourne entre mes cinq points là, dans les overlaps d'amation. Et donc cette énergie va déjà être détruite. Ça, c'est la première action. La deuxième action, et ça, ça a été prouvé par... au départ, j'ai trouvé ça, vous savez, de façon assez empirique, mais j'ai aidé par des chercheurs qui ont cherché à comprendre pourquoi la PBA marchait si bien. Et alors, la deuxième action, c'est que quand on fait ces points d'acupuncture, il y a, donc la PBA est là, elle libère au niveau du cerveau des endorphines. Vous savez que les endorphines... c'est une sorte de morphine naturelle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les gens se sentent si bien. Quand on leur fait 4 ou 5 circuits, les gens ils disent tout de suite « qu'est-ce que je me sens bien ?» Pour la petite histoire, d'ailleurs, une fois, je voulais convaincre une de mes patientes de Nouméa de venir apprendre à se faire les circuits elle-même. « Ah non, je préfère venir vous voir », elle m'a dit. « Moi, quand je sors de chez vous, c'est comme si j'avais fumé un pétard. » Voilà. Donc, pour vous dire, il y a cette libération d'endorphines tout à fait authentique. Donc, comme il y a cette libération d'endorphines, le cerveau n'a pas peur de souffrir. Donc la plaque de béton qu'il y avait au-dessus de l'amygdale, elle est détruite pour un certain temps. Ce qui explique que quand on verbalise le blocage, il sort d'autant plus facilement de cette zone-là où il était enkysté, et donc il va être recapté par le cortex préfrontal. Il y a aussi la notion de neuroplasticité. Vous avez entendu parler un petit peu de la neuroplasticité du cerveau. Eh bien, le cerveau s'adapte sans arrêt. C'est de plus en plus prouvé. C'est ça qui explique d'ailleurs pourquoi certaines personnes qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux gigantesques arrivent à récupérer. C'est parce qu'il y a d'autres zones du cerveau qui se mettent à suppléer celles qui ont été détruites. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. D'ailleurs, il y a un livre très intéressant là-dessus, si vous vous le procurez, si ça vous intéresse. C'est de Norman Doidge, c'est « Les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau ». C'est au Press Pocket, ça ne vaut rien du tout, et c'est très intéressant sur ce problème. Alors, les endorphines, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles ont une action sur le poids synaptique. Ce qui fait que elles vont alléger les synapses. Et comme elles vont alléger les synapses, eh bien, l'influx nerveux ne sera plus obligé de prendre toujours le même trajet. C'est le deuxième aspect qui est donc double. D'une part, on n'a plus la plaque de béton qui empêchait les émotions de ressortir de l'amygdale. Et d'autre part, il y a cette action sur le poids synaptique qui fait que donc l'influx nerveux n'est plus obligé de prendre toujours le même trajet, ce qui était le cas des blocages. Les blocages, ils ont lieu parce qu'on a toujours l'influx nerveux qui suit le même trajet. Et alors la troisième raison, ça va vous sembler un petit peu curieux, et pourtant c'est vrai, c'est qu'il y a aussi l'intention du praticien d'enlever le blocage qui joue. Parce que ça, on s'est rendu compte de plus en plus du pouvoir de l'intention. Et donc l'intention du praticien va avoir son importance, et là on rentre dans le monde quantique. Vous savez que dans le monde quantique, E égale MC2, etc., nous sommes tous reliés, puisque tout est énergie. Comme disait Deepak Chopra dans un de ses derniers livres, il disait, vous êtes au bord de la plage, vous avez plein de vagues. Elles sont toutes différentes. Vous avez des grandes, des petites, des avec écume, des sans écume. Mais si vous passez à 2000 mètres d'altitude avec un avion, vous voyez qu'une immensité bleue. Bien, en fait, donc, on est tous reliés. Donc, on est tous en interaction les uns avec les autres. Donc, un praticien est en interaction avec son patient. La preuve. Il y a eu des statistiques qui ont été faites dans les hôpitaux américains. Quand les gens, quand les médecins croient à la guérison de leurs patients, eh bien, ils guérissent beaucoup plus que quand les médecins n'y croient pas. C'est des statistiques tout à fait officielles. Il y a aussi cette action, je ne sais pas si vous avez lu les livres de Masaru Emoto sur l'eau. Quand on envoie une pensée dans l'eau, les cristaux qui se forment dans l'eau quand on la fait cristalliser sont complètement différents, suivant que ça soit une pensée de colère, une pensée d'amour, etc. Or, n'oubliez pas qu'on est fait à 80% d'eau. Donc, effectivement, nous aussi, on va agir, on va interférer les uns avec les autres, rien que par notre pensée. Et en fait, ce qui se passe, et là, c'est au niveau quantique que ça se passe. En fait, comme tout est énergie, si moi, j'ai l'intention qu'un blocage quitte une personne, mon intention se transforme en énergie arrive au cerveau de la personne et est retransformée en information. Et il y a encore une action au niveau des neuromédiateurs. D'ailleurs, on a prouvé, Eccles le disait déjà en 57, que le cerveau est un organe quantique. Eccles, c'est un gars qui a eu le prix Nobel de médecine quand même, et que les quantités de neuromédiateurs échangés d'un neurone à l'autre sont tellement fines qu'on peut les assimiler à des quantas d'énergie. Donc, en fait, on va avoir une action triple qui va permettre d'enlever les blocages. La première action, l'action d'interférence du circuit d'acupressure. La deuxième action, l'action des endorphines qui agit sur le poids des synapses et qui agit sur cette plaque de béton qui faisait que, inéluctablement, jusque-là, les blocages étaient dans l'amygdale. Et la troisième action qu'il ne faut pas négliger, c'est l'intention du praticien. C'est d'ailleurs pour ça que je dis toujours aux personnes que je forme, puisque je forme beaucoup de gens de par le monde, je dis, si vous pensez que vous n'y arrivez pas, vous n'y arriverez pas. La pensée est tellement constructrice, on agit tellement au niveau de notre environnement par notre pensée, que si vous croyez que ce n'est pas possible, ça devient impossible et vous n'aurez aucun résultat. Mais ce n'est pas de l'effet placebo, hein, c'est le pouvoir de notre pensée qui est une énergie et qui agit sur notre environnement. Alors maintenant, question qui est quand même importante, comment est-ce qu'on va trouver ces blocages ? Eh bien, dans un premier temps, ça va être surtout en utilisant le pouls. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une artère. Vous le savez déjà. Donc, une artère, voilà, il y a les muscles autour de l'artère. Et à l'intérieur, il y a du sang. Et ce sang, il est mis en mouvement par chaque battement du cœur. Et donc, il arrive... Il n'y a plus rien qui marche. On strike. Bon, donc voilà... Donc, on va avoir du sang vert, hein, ce n'est pas grave. Et donc, voilà, le sang arrive jusque-là. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on sent quand on met le doigt sur l'artère. On est bien d'accord. Et l'artère, elle a ce diamètre-là parce que notre influx nerveux fait que il y a une certaine force qui s'exerce par l'intermédiaire du tonus des muscles des artères. Et notre artère va avoir ce diamètre. Vous me suivez ? Bon. Toute chose qui nous perturbe nous fait perdre notre influx nerveux. Est-ce que vous voulez venir là, monsieur, s'il vous plaît ? Vous ? Ça ne vous dérange pas ? Juste pour vous prêter à une toute petite expérience pour vous montrer que toute chose qui nous perturbe, perturbe notre influx nerveux. Alors déjà, on va faire l'expérience avec un portable. Et ça, c'est de la kinésiologie, hein, vous devez connaître. Il a beaucoup moins de force parce que l'énergie du portable donc le perturbe, donc il a perdu de l'influx nerveux. Mais maintenant, une deuxième chose. Je vais encore vous embêter deux secondes. Comment vous prénommez-vous ?
Alex.
Alex. Bon. Qu'il s'appelle Bernard, merci beaucoup. La pensée qu'il s'appelle Bernard fait quoi ? Fait qu'il perd de l'influx nerveux, donc il perd de sa force. Maintenant, si je voulais trouver les blocages qu'il a, j'ai une liste de 80 pages de blocages. Donc il est certain que si je les fais un par un avec son épaule, eh bien très vite la fatigue va tout fausser. Mais qu'est-ce qui se fatigue jamais ? C'est notre pouls. Donc qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, mon doigt passe sur la liste des blocages. Donc, mon doigt va enregistrer, comme je suis relié à lui, son cerveau va enregistrer la perturbation quand elle le concerne, et donc il va perdre de l'influx nerveux. Qu'est-ce qui se passe au niveau du pouls ? Eh bien, comme l'influx nerveux diminue, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que notre artère va s'élargir. Et comme notre artère va s'élargir, eh bien, et que le cœur, lui, il a gardé la même force de pulsion, eh bien, pendant une fraction de seconde, le sang n'arrivera plus jusqu'à la paroi. Donc, pendant une fraction de seconde, on ne sentira plus le pouls. Donc, la technique est très simple. On prend le pouls d'une personne. On peut le prendre le nôtre, éventuellement. De façon très tangentielle, par contre. Parce que c'est sûr que si j'appuie comme une brute là, je serai dans cette zone-là, je continuerai à sentir le pouls. Donc la technique, c'est d'apprendre, d'arriver à le prendre de façon très tangentielle. Je prends le pouls de façon tangentielle. Je passe le doigt sur la liste des blocages. Chaque fois que je passe sur quelque chose qui perturbe la personne, donc sur un de ces blocages, il va y avoir une sensation de vide. Parce que je ne percevrai plus le pouls, ce n'est pas le cœur qui s'arrête, hein, heureusement, mais je ne percevrai plus le pouls pendant une ou deux secondes. Donc chaque fois qu'il y a un vide, je sais que je suis sur un blocage. Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Une fois que je suis sur un blocage, je dis à la personne, ben voilà, vous avez telle panique, ou vous avez telle peur, ou vous avez, par exemple, la peur de ne pas être à la hauteur, etc. Et vous verrez que il n'y a plus qu'à enlever le blocage après. Et les résultats sont ébouriffants. Je vais vous donner un exemple. Imaginez une petite fille qui sort de l'école, et puis sa maman l'attend, et puis la maman elle est en train de parler à la copine. « Si tu savais comme mon accouchement, ça a été catastrophique, j'ai eu mal, la péridurale n'a pas marché, et tout ça. Et puis tu sais, hein, si j'avais su, j'aurais jamais eu d'enfant. Hein, parce que en fait, je devais être une grande cantatrice, et puis voilà, j'ai pas d'enfant, j'ai 7 enfants, et puis je suis dans les couches culottes, et puis c'est fini, hein, ma carrière est fichue. » La petite fille, elle entend ça, elle dit « Ouh là là, moi j'aurais jamais d'enfant. » Elle a 5 ans, hein. Elle oublie. Et puis elle se marie, 20 ans plus tard. Et puis 5 ans, pas de bébé. 10 ans, pas de bébé. Ben, on fait toutes les analyses possibles et imaginables. On fait tous les gynécos du monde, pas de bébé. Eh bien, il suffit qu'elle aille voir un praticien qui pratique cette méthode. Le praticien va tomber sur quoi ? Il va tomber sur la défense d'être mère, puisqu'elle a dit à 5 ans, je ne veux pas avoir d'enfant. Il suffit de lui enlever 2 ou 3 mois après, elle est enceinte. Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'enfants dont je suis le père putatif. Et il n'y a encore pas très longtemps, j'étais justement en train d'en parler dans un stage que je faisais pour dire que c'est transmissible et que d'autres peuvent le faire. Et j'ai reçu un SMS, je regarde le SMS, il y avait écrit, c'était une de mes élèves de Vichy, qui m'écrivait « Je t'informe la naissance de mon premier bébé BBA et le deuxième est en route ». Donc vous voyez, la PBA, c'est quelque chose de fantastique parce que ça peut enlever des choses qu'on est loin d'imaginer. Un autre blocage, vous savez, qui empêche souvent les personnes d'avoir des enfants. Je le trouve très souvent quand une personne vient me voir pour ça, pour un désir de grossesse et que toutes les analyses sont normales et malgré tout, il n'y a pas de grossesse. Eh bien, je tombe sur la défense, la panique de recréer le schéma maternel. Mais la meilleure façon de ne pas recréer le schéma maternel, c'est encore de ne pas faire d'enfants. Vous voyez ? Et il y a des blocages dans tous les domaines, vous ne pouvez pas savoir. Et c'est ça qui est très intéressant dans la PBA par rapport à d'autres méthodes. C'est que donc on a une liste de 80 pages de blocages et qui ratisse tout depuis l'entrée dans la vie, avec la culpabilité d'être une fille, par exemple, si on n'était pas désiré. D'ailleurs, quand je tombe là-dessus, je dis aux gens, vous n'étiez pas un peu garçon manqué quand vous étiez petit ? Oh là là, oui. Ben, parce qu'il y avait une culpabilité d'être une fille enregistrée par le fœtus. Vous allez avoir donc tout ce qui concerne les peurs de ne pas être à la hauteur, etc. Et alors, la grosse différence par rapport à la plupart des autres méthodes, c'est qu'on ratisse très large. Puisque c'est nous qui allons chercher dans la liste. La personne n'a pas besoin de se raconter. Il y a d'autres méthodes tout à fait intéressantes qui permettent d'essayer de gérer les blocages. Par exemple, le EFT, l'Emotional Freedom Technique, etc. Mais c'est des techniques où vous arrivez, vous avez une cible. C'est-à-dire, vous dites, voilà, j'ai telle problématique, je voudrais qu'on m'aide à gérer cette problématique. Ça marche, hein, moi, je me suis enlevé le vertige en EFT. Hein. D'accord. Mais quand même, malgré tout, ça, on va être limité. Tandis que là, la personne, elle arrive, je ne lui dis rien. Je lui demande de me parler le moins possible au départ. Parce que bien évidemment, si elle me raconte toute sa vie, eh bien après, si je lui dis, tiens, il y a tel blocage, elle va me dire, ben oui, c'est normal, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je demande de me parler le moins possible. Et par contre, quand je parle d'un blocage, elle me dit, mais comment vous avez trouvé ça ? Mais comment vous savez ça ? Bon, vous allez avoir aussi des enchaînements, ce que j'appelle les enchaînements maléfiques, c'est-à-dire un blocage va entraîner un autre blocage qui va entraîner un autre blocage. Par exemple, si souvent je trouve chez certaines personnes, la culpabilité de ne pas être parfait, qui va avec l'auto-jugement, ne pas faire la différence entre l'erreur et la faute, s'interdire le droit à l'erreur, etc. Je trouve ça chez beaucoup de personnes. Eh bien, en général, quand je trouve ça, vous pouvez être sûr qu'auparavant, j'ai trouvé la panique d'être abandonné, ou la panique d'être agressé, et la panique des jugements et des critiques. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui a ces trois paniques-là, à un moment donné, elle a le malheur de se dire dans sa tête, parce que le cerveau reste logique, même quand il déraille. Il dit, bon, ben voilà, il faut que je sois parfaite. Comme ça, on va m'aimer, on ne va pas me critiquer, on ne va pas m'abandonner. Mais le jour où on se rend compte qu'on ne peut pas être parfaite, vlam, on se tape dessus. Et vous voyez, ça, c'est un enchaînement que je trouve très souvent. Un autre enchaînement, parce que les blocages entraînent d'autres blocages. Je vois des gens qui n'arrivent pas à se stabiliser. Vous voyez, ils sont sans arrêt à changer de boulot, à avoir du mal à s'investir, etc. Eh bien, la plupart du temps, quand je vais chercher leur blocage, je vais tomber sur la panique d'être déraciné. Et je leur dis, vous n'avez pas déménagé quand vous étiez petit ? Ah si, si, effectivement, et j'avais très mal vécu ça. Mais seulement, la panique d'être déraciné chez ces gens-là, plus loin, on va trouver la panique de s'enraciner. Puisque si on s'enracine, on prend le risque d'être déraciné. Donc la plupart des gens instables, en fait, ne sont pas vraiment instables. C'est parce qu'ils ont eu une panique d'être déracinés quand ils étaient tout petits. Parce que le problème de ces blocages émotionnels, c'est ça. C'est que ça peut se réveiller 15 ans, 20 ans après la cause initiale. Et donc là, on ne saura jamais que c'est à cause d'un blocage qu'on vit très mal une situation. Je vais vous donner un dernier exemple. Il y a quelques années, on m'amène un jeune homme, j'étais à Nouméa à l'époque, on m'amène un jeune homme qui était allé faire ses études en Australie. Il rêvait d'aller en Australie depuis la sixième. Il embêtait ses parents avec ça sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et puis les parents, ben, ça coûte cher quand même les études en Australie. Et donc, à un moment, ils lui ont dit, bon, mais d'accord, bac scientifique, mention bien, d'accord, sinon tu ne vas pas. Bac scientifique, mention très bien. Ils sont obligés de s'exécuter, et voilà le gamin qui part à Brisbane. 15 jours après, ils faisaient une telle dépression, ils ont été obligés d'aller le chercher. Ils me l'ont ramené à mon cabinet, j'étais encore à Nouméa. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? On ne comprend rien. Ce gamin qui cherchait qu'une chose, c'était de partir là-bas, il a ce qu'il cherchait, il déprime. Je dis, mais on va regarder ses blocages. Le doigt sur la liste des blocages, panique d'être déraciné. Je dis aux parents, mais vous n'avez jamais déménagé avec ce petit ? Il me dit, si, quand il avait 2 ans, on est venu de métropole. À 2 ans, le gamin, il avait perdu les tontons, les cousins, les cousines, la nounou, etc. Mais il avait oublié ça, bien entendu. On oublie, puisque c'est sous la plaque de béton que je vous ai dit tout à l'heure. Seulement, quand il est reparti, eh ben là, ça s'est réveillé. Et il a suffi que je lui enlève la panique d'être déraciné. Il est reparti continuer ses études et tout a été très bien depuis. Oui, voilà, c'est ça. Et alors, ce travail sur les blocages, vous pouvez le faire sur vous. Au début, j'y croyais pas. Je vais vous dire, mais dès qu'on croit qu'une chose est impossible, elle est impossible. Donc, j'enseignais ça à beaucoup de personnes pour travailler sur les autres. Mais je leur disais, ben, sur votre famille, sur vous, tout ça, vous ne pouvez pas travailler. Mais j'ai pris l'habitude, quand je forme des gens, donc il y a 4 niveaux de formation, et au 4e niveau, je leur disais de me rendre en mémoire. Et une fois, une personne, elle me rend son mémoire, elle me dit, mais tu sais, tu nous dis qu'on ne peut pas travailler ni sur nous, ni sur nos enfants, tout ça. Je regrette. Moi, j'ai travaillé sur mes enfants, j'ai travaillé sur mon mari, j'ai travaillé sur moi, et je t'assure que je n'ai plus de blocage. Et bien là, je me suis dit, tiens, peut-être qu'après tout, c'est possible. Et c'est vrai que après, surtout que j'étais le seul à travailler sur le blocage des gens, et comme j'ai inventé la méthode, moi, je ne m'étais jamais déprogrammé mes blocages, effacé mes blocages, eh bien, je peux vous dire que ça marche très bien. Donc, on peut tout à fait trouver soi-même ces blocages, mais à ce moment-là, il faut, attention, hein, il faut vraiment ne pas être impliqué émotionnellement. C'est-à-dire, comme je dis toujours, voilà, vous passez votre doigt sur la liste des blocages que vous avez dans ce livre en particulier, ou pour les gens qui suivent mes stages, qui je leur donne cette liste, mais vous faites vraiment comme si c'est un bout de bois qui était devant vous. Hein? Hop, ah, il y a ça, j'enlève. Il y a ça, j'enlève. Mais vous oubliez que c'est de vous qu'il s'agit. Pareil si vous travaillez sur votre mari, pareil si vous travaillez sur votre épouse ou sur vos enfants. Mais là, vous verrez que ça a un résultat fantastique. Et alors, je voulais juste ajouter 2 ou 3 choses. Je ne suis pas là pour taper sur les copains, hein, mais il faut dire que très souvent, quand je travaille sur des blocages, Il y a des personnes qui me disent, attendez, mais ça, je l'ai enlevé en kinésiologie. Ça, je l'ai enlevé avec telle méthode, telle méthode. Je dis, vous savez, je ne vous ai pas fait parler avant. Donc, si je le trouve, c'est que quelque part, il est encore là. Donc, je ne dis pas que ces méthodes sont mauvaises, mais sans doute que on va plus loin. On va plus loin que ce que c'était, que ce que font les autres méthodes. Et alors, l'autre avantage aussi de la PBA, c'est que ça déclenche excessivement peu de catharsis. Vous savez, la catharsis, c'est cette réaction émotionnelle qui peut y avoir après une séance et qui est parfois difficile à gérer. Et certaines méthodes, en particulier le rebirth, etc., sont connues comme donnant pas mal de catharsis. Eh bien, en PBA, il n'y a quasiment jamais de catharsis, moyennant certaines précautions de verbalisation à prendre, bien sûr, mais il y a très peu de catharsis. Voilà, donc voilà les deux aspects de la PBA. Le premier, c'est de s'autogérer, alors là, très facilement, au jour le jour, nos émotions. Mais le deuxième, c'est de profiter de ces endorphines, de ces pressions, etc., pour enlever les blocages émotionnels. Et je ne connais pas de méthode aussi rapide et aussi facile à utiliser et qui arrive à des résultats, mais vraiment extraordinaires. Je dis toujours, d'ailleurs, il faudrait nous amener tous les gamins qui ont 10 ans. Puisqu'à partir de 10 ans, notre cortex préfrontal commence à se mettre à fonctionner. Donc, on va beaucoup plus filtrer les émotions. Mais un enfant ne filtre rien. Et donc, les enfants se fabriquent des blocages, mais tant qu'on ne les enlève pas, ils les gardent jusqu'à 60 ans, 70 ans. Il n'y a aucune raison de perdre nos blocages. Vous voyez? Et ça induit sans cesse des comportements qui font qu'on va être mal dans notre peau. Parce que notre cerveau, la seule façon qu'il a de nous expliquer qu'on a des blocages, c'est de nous mettre mal dans notre peau. D'ailleurs, si une personne vient me voir et me dit, tiens, je manque de confiance en moi, j'en souffre, je voudrais savoir si c'est un blocage. Je lui dis, à tous les coups, c'est un blocage. Parce que si ce n'était pas un blocage, ça serait inscrit dans votre patrimoine, donc vous n'en souffririez pas. Si vous en souffrez, c'est d'avance que c'est un blocage. Puisque sinon, si ce n'était pas un blocage, vous seriez en harmonie avec vous-même, vous n'en souffririez pas. Voilà, donc c'est une méthode pleine d'avenir et que je dispatche maintenant dans le monde entier. Vous voyez, d'ailleurs, le Canada s'ouvre dans quelques mois. Dans 15 jours, je fais des formations en Australie. Et puis donc, bien sûr, je privilégie encore, bien sûr, la France métropolitaine, etc. Donc, je suis sans arrêt en voyage. Mais vous verrez que c'est une méthode très, très intéressante. Donc, à employer sur soi. Et sinon, si on a un petit peu de mal, c'est vrai que j'anime des formations, hein, régulièrement partout où je passe pour apprendre cette technique aux gens. Voilà. Mais écoutez, maintenant je suis ouvert à toutes les questions que vous voudrez bien me poser. Je regarde quand même l'heure parce que voilà, il va peut-être bientôt falloir laisser la place. Oui. Non, non, pas du tout. Pas les pouls chinois, au contraire, le pouls en tangentiel. Et par contre, par rapport à la kinésiologie, ça va quand même un petit peu plus loin par les résultats. Et d'autre part, c'est beaucoup moins complexe à utiliser, même si la kinésiologie est une très belle méthode. Mais la PBA est plus facile à utiliser. Voilà, alors la catharsis, c'est un mot grec, hein, qui veut dire, ça correspond à une libération émotionnelle. C'est-à-dire qu'au départ, chez les Grecs, c'était une libération émotionnelle par le biais de la représentation théâtrale. Vous voyez, pour essayer de faire partir les émotions des gens par la représentation théâtrale. Et maintenant, ben, au XXIe siècle, c'est un mot assez employé par les psychiatres, c'est la libération, la décharge émotionnelle qui peut suivre certaines méthodes qu'on peut employer. Parce que comme on ramène quand même dans certaines méthodes pas mal de choses qui étaient dans l'inconscient, on les remonte au conscient, eh bien, il y a quand même des émotions par rapport aux événements qui ont fabriqué ces blocages, etc. Mais moi, ce que je veux absolument, c'est éviter au maximum cette catharsis parce qu'il y a des gens qui peuvent être très mal par rapport à ces libérations émotionnelles. Voilà. Et la PBA déclenche très peu de catharsis. Non. Non, ça c'est. Si vous voulez, je crois que ça c'est. On est encore dans la notion que si on souffre, c'est efficace. Moi je me souviens d'ailleurs d'une personne qui disait, mais si on est brassé, c'est que ça marche. Mais moi, je pense que si on peut vraiment faire ça sans douleur, c'est encore mieux. Puisque, si vous voulez, on est au niveau d'un lien directement de cerveau à cerveau, on enlève des choses. Si la personne ne souffre pas, c'est encore mieux. Ce n'est pas la peine de revivre les événements causaux, vous voyez, les événements qui ont causé les blocages. Et c'est la grosse différence avec beaucoup de psychothérapie, justement. C'est que, alors, si vous voulez, là, pour revenir, je vais vous rajouter une dernière petite chose. Donc, on disait, nous, voilà, on a notre voie ferrée, et puis on a notre aiguillage qui nous emmène là. Alors, jusqu'ici, la plupart des méthodes, soit donc passent leur temps à chercher qui a mis l'aiguillage, mais c'est tout, hein, on s'arrête là. Et par contre, l'aiguillage, il reste là. Bon. Sinon, il y a d'autres méthodes qui se sont rendues compte que ben, trop chercher, ça sert à rien finalement, surtout si on a toujours notre aiguillage en travers des bras. Et donc, les autres techniques vont être plutôt, comme la PNL par exemple, sont des très bonnes techniques, mais qui, à mon avis, n'enlèvent pas l'aiguillage. Elles vont permettre de contourner. Vous voyez, on va trouver une voie de garage, donc, et on va reprendre notre marche en avant. Donc, c'est déjà un énorme progrès, mais au prix, au jour le jour, d'une dépense d'énergie. Tandis que vraiment, avec la PBA, on enlève carrément l'aiguillage. Et là, je peux vous dire que le train, pour aller tout droit, vous ne rajoutez pas un watt à la puissance de la machine. Vous voyez, donc, c'est l'intérêt. Parce que sinon, beaucoup d'autres méthodes, bon, ben, bien sûr, je ne peux pas toutes les citer. Il y a les thérapies comportementales, la gestalt-thérapie, l'EFT, on en a parlé, l'émotionnel, la PNL, la psychophanie, tout ça, ce ne sont pas des méthodes qui vraiment enlèvent l'aiguillage. Je crois que l'originalité de la PBA, c'est ça, c'est d'enlever l'aiguillage et vraiment sans douleur. Et pourquoi je dis qu'on l'enlève? Mais simplement parce que quand 20 secondes après avoir fait ce travail, on repasse le doigt sur la liste des blocages, il n'y a plus aucune réaction au niveau du pouls. Donc on voit que ça y est, il y a plus de perturbations, donc c'est parti. Et les gens, vous les voyez effectivement 3 semaines après vous dire, mais mon comportement a changé. Alors bien sûr, si vous voulez, c'est pas en se voyant dans la glace qu'on sait que notre comportement a changé. C'est si on traverse un épisode et puis on se dit, ah tiens, mais avant j'aurais pas réagi comme ça. Parce que comme ça se fait inconsciemment, on ne se rend pas compte qu'on va mieux. On se rend compte qu'on va mieux si on réagit différemment à certaines situations. Par exemple, il y a un blocage très fréquent, en particulier chez les gens qui ont la panique d'être agressés. Donc, ça va entraîner la panique de déplaire. Et souvent, chez ces gens, on va trouver la défense de dire non. Donc, c'est des gens qui sont incapables de dire non. Quand ils veulent dire non, il y a un conflit en eux avec l'interdiction de dire non. Alors, ou bien ils disent pas non, mais ils se laissent manger. Ou bien ils disent non, mais comme c'est au prix d'un conflit, ça va mal se passer. Mais vous leur enlevez ça. Eh bien, ça se fait vraiment sans douleur. Eh bien, ils vous disent, ben, 3 semaines après, j'ai eu à dire non, et ça s'est fait tellement souplement que les gens l'ont très bien pris. Vous voyez, c'est ça la grosse différence. On arrive à changer complètement le comportement des gens qui vont retrouver une confiance en eux. Mais attention, comme je dis toujours, je ne suis pas là pour changer votre caractère. Vous voyez, une fois. Je reprends un peu la parole longtemps, mais parce que c'est intéressant. Une fois, il y a une dame qui m'a dit, j'étais en train de lui faire une séance, elle me dit, écoutez, ça fait 20 ans que je suis marié, mais en une demi-heure, vous en savez plus sur moi que mon mari. Et moi, je lui ai dit, non, je regrette, je ne sais rien sur vous. Je connais tout de vos blocages, mais ce que vous êtes, vous, je ne le sais pas. Je ne suis pas une machine à fabriquer des clones. Vous allez sortir d'ici, je ne sais pas qui vous êtes. Par contre, je sais ce qui vous empêchait d'être vous. Et ça, je l'ai enlevé. Autre question? Tout à fait. Tout à fait. On peut travailler sur tout le monde. Tiens, je dois vous dire aussi, parce qu'il y a tellement d'aspects de la PBA, parce que c'est quelque chose qui s'adapte dans tellement de domaines. Mais par exemple, c'est pour les gens qui l'utilisent dans l'accompagnement des personnes en fin de vie, c'est quelque chose de fantastique. Les gens, ils partent presque avec le sourire. Vous voyez, si vous leur enlevez la peur de la mort, la peur de ci, la peur de ça, ils vont complètement changer par rapport à la mort. Vous voyez, c'est un effet parmi tant d'autres. Les coachs l'utilisent de plus en plus par rapport à. Si vous enlevez à quelqu'un la panique de perdre, etc., vous allez le changer au niveau sportif. Vous voyez, ou la peur de gagner, hein, dont on dit qu'au dernier jeu du cinquième set, ça y est, on n'arrive plus à mettre la balle de match parce qu'il y a cette peur de gagner. Mais ça peut se travailler aussi. Vous voyez, il y a des effets, en fait, dans tous les domaines. Mais effectivement, sur quelqu'un qui est malade ou qui est lésé physiquement, vous pouvez parfaitement l'utiliser. On peut même l'utiliser sur quelqu'un qui est dans le coma. Il n'y a aucune contre-indication à la PBA. On peut l'utiliser chez les femmes enceintes. Et d'ailleurs, tant mieux, comme je dis toujours quand on me pose la question, attendez, plus vous allez être bien, plus le bébé dans votre ventre, il va être bien. Parce que vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où, quand quelqu'un vient me voir, je tombe sur la panique d'être au monde. Je dis à la personne, est-ce que vous savez comment ça s'est passé, la grossesse de votre maman? Ah oui, elle était très mal, elle était anxieuse, ou elle avait ci, ou elle avait peur de me perdre, etc. Le bébé ressent ça, surtout qu'il a été prouvé que les hormones avaient un goût. Donc le bébé, dans le ventre de sa maman, il ressent que la maman n'est pas bien, et il se dit dans quoi je tombe. Et ça donne déjà un tempérament anxieux dès le départ. Vous voyez, la PBA peut vraiment s'adapter à tout le monde et je ne connais pas de contre-indication. Alors ça fonctionne aussi. Par contre, c'est ce que je dis surtout aux personnes qui suivent mes stages. Je leur dis, par contre, ne prenez jamais sur vous de faire arrêter un traitement. C'est pas parce que ça marche bien. Si les gens vous disent, ah, je me sens beaucoup mieux, est-ce que j'arrête mes antidépresseurs? Je leur dis, allez demander à la personne qui vous l'a prescrit. Mais par contre, c'est vrai. Et puis, si quelqu'un va très mal, je dis aussi de ne jamais prendre de risque. Si quelqu'un, on voit qu'il est suicidaire, on va peut-être lui faire de la PBA, mais il faut se faire aider. Vous savez, le cerveau humain, il a aussi fabriqué les médicaments, c'est pas un péché d'en prendre. Seulement grâce à la PBA, au lieu de prendre des antidépresseurs pendant 9 mois ou 1 an, on les prendra peut-être que pendant 2 mois. Mais il ne faut pas hésiter non plus à utiliser les médicaments. Là, c'est le médecin qui parle. Vous savez, j'ai la chance d'avoir un pied de chaque côté et de ne pas trop rêver. Et si on est vraiment dans une situation dure, c'est pareil ce que je dis avec les jeunes filles que j'ai eu l'occasion de soigner qui sont anorexiques. Je pose les limites. Je dis, le jour où vous êtes à 35 kilos, je passe la main. Hein, que les choses soient claires. Ne jamais prendre de risques. Ce n'est pas parce que c'est une méthode fantastique qu'il faut prendre des risques avec. Oui. Alors, ce sont des points qui, effectivement, au départ, étaient des points. Il y a quelques points en méridien, mais la plupart sont des points d'acupuncture. Mais je me suis rendu compte, et c'est ça qui étonne toujours les acupuncteurs qui suivent mes stages, c'est que la localisation de la zone douloureuse est souvent à 1 demi-centimètre ou 1 centimètre, la zone donc de plus grande sensibilité, à 1 demi-centimètre ou à 1 centimètre par rapport au point d'acupuncture tel qu'il est défini dans les manuels. Des fois, vous avez un bon centimètre d'écart, mais en fait, il faut aller chercher à l'endroit où il y a la plus grande sensibilité. Puisque le but de la manœuvre, c'est d'appuyer sur les 5 points, hein, quand on fait les circuits, et en fermant les yeux après, de se dire, est-ce que je sens toujours mes 5 points? Donc, il faut quand même être sur la zone de plus grande sensibilité. Vous voyez, vous avez par exemple un point qui est juste là, vous allez le trouver très facilement, vous verrez, et qui correspond d'ailleurs à un point du gros intestin en acupuncture. Si vous mettez votre pouce entre votre pouce et votre index de l'autre main, allez au fond et puis tournez légèrement, et bien vous allez voir, il y a un endroit qui est nettement plus sensible. Et bien c'est cette sensibilité-là qu'il faut chercher partout, parce que maintenant que je l'ai stimulé, dans 1 minute, je le sens encore, ce qui me donne largement le temps de chercher les 4 autres points du circuit. Non, j'y vais franchement, mais tout dépend aussi du seuil de douleur de la personne. Par contre, chez les enfants, puisque vous savez que j'ai écrit aussi un livre sur les bébés, alors là, n'appuyez pas, hein, ne leur faites pas mal. Un bébé, il suffit de faire blanchir la peau. Hein, vous appuyez comme ça, on fait blanchir la peau, ça suffit. Une autre question, j'anticipe, parce que peut-être que vous oublierez de me la poser. Si quelqu'un, par exemple, est amputé, hein, où est-ce que je vais faire mon point? Et bien là, on va visualiser le membre fantôme et on va par la pensée faire le point à l'endroit où il devrait être. Et vous verrez que ça marche. Puisque notre pensée est une énergie, on peut agir donc sur le corps énergétique de la personne qui persiste toujours, même si elle a été amputée. De la même façon, si un gamin a le bras dans le plâtre et que j'ai besoin de faire le point qui est là, je pose mon doigt sur le plâtre de l'autre côté et ça marche aussi. Les acupuncteurs le disent, hein, l'énergie va où va l'intention. Hein. D'ailleurs, moi, au début, quand je travaillais avec les aiguilles, combien de fois, en sortant mes aiguilles, j'avais vu au pouce, ça y est, le circuit a marché, je sortais mes aiguilles, puis je disais, mais zut, celle-là, c'est pas là qu'il fallait la mettre. Et pourtant, ça avait marché. D'ailleurs, c'est souvent avec des erreurs comme ça que j'ai rectifié le tir et que j'ai modifié certains circuits parce que, en fait, ça avait mieux marché. Le hasard m'avait guidé vers une meilleure position, une position différente. Oui, un ou deux. Il y en a une à Meaux, il y en a une boulevard Saint-Michel. Si vous allez sur le site hein, de la PBA, vous avez les praticiens partout. Et puis j'en forme de plus en plus. D'ailleurs, je reviens le mois prochain sur Paris. Là, je pars en Australie dans 2 jours, au nom de même. Mais je reviens à la fin du mois de novembre pour animer encore des formations sur Paris des 4 niveaux. Alors, pour chaque émotion qui nous perturbe, ce sont des circuits de 5 points parce que, comme je l'ai dit au départ, en fait, c'est reparti d'une acupuncture qui, à l'époque, était enseignée seulement, il y a 2000 ans, tout ça, uniquement aux initiés. Et c'était une acupuncture à 5 points et qui était censée agir, donc, non plus par les points pris isolément, mais par l'énergie qui tournait entre les 5 points. Et c'est quelque chose qui est ressorti en France dans les années 80-90 et aussi en Australie. Mais après, j'ai eu mon cheminement personnel par rapport à ça, puisque donc je me suis rendu compte que ça agissait beaucoup sur le psychisme. Et c'est pour ça que je suis parti sur la psychobioacupressure, puisque c'est une acupression, ça agit sur le psychisme. Et c'est quand même une méthode bio parce que malgré ce qu'on disait tout à l'heure, ça va pouvoir dans beaucoup de cas éviter d'utiliser les benzodiazépines et tous ces produits chimiques. Et ça, c'est un progrès fantastique aussi, puisque vous savez que la France est le pays du monde qui, par tête d'habitant, utilise le plus de tranquillisants quand même. Donc ça serait bien qu'on arrive à s'en sortir sans ça. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de laboratoire là qui me fusille du regard. Léonard de Vinci. Oui. Tout à fait, vous avez raison. Et ce chiffre 5 est un peu magique. Mais d'ailleurs, il y a un circuit en particulier, le circuit 2. Chaque fois que je le fais, le circuit court le mental négatif, j'ai vraiment, de par les points que je fais, l'impression d'inscrire une personne dans un pentagramme. Hein. Il y a des ondes de forme aussi dans les circuits, c'est indéniable. Et il y a un autre chiffre qui est très important, qui est le 8. Et ben, quand on fait le circuit qui enlève les blocages, donc qui est le circuit guérisseur et qui est dans le livre le circuit numéro 7, eh bien ce circuit-là, quand on le fait 3 fois, en fait on dessine un 8 sur la personne. Absolument. Oui. Oui, alors je vais vous le donner comme ça, sinon vous l'avez sur les livres éventuellement, mais c'est www.psycho-bio-acupressure.com. Alors, www.psycho-bio-acupressure.com. Enfin le trait d'union du 6, hein, le tiret du 6, psycho-bio-acupressure. ACUPRE2SURE.com. Ah oui, tout à fait. Alors là, vous cliquez, vous avez l'annuaire des praticiens, vous avez les stages tels qu'ils sont programmés, etc. Vous verrez tout sur le site. Et puis, ces explications théoriques aussi, vous les aurez à nouveau. Et même pour ceux qui s'intéressent à cet enseignement-là, il y a toutes les explications concernant les différents niveaux de formation. Le niveau 1 qui est vraiment accessible vraiment à tout le monde, puisque c'est cette hygiène de vie qu'on devrait utiliser tous les matins pour se mettre bien. Et puis alors les autres niveaux pour apprendre à écouter le pouls et puis pour apprendre à libérer des blocages. tout ça. Parce que en fait, ça s'apprend très facilement. Hein. Ça s'apprend en 4 jours, la PBA. Mais après, il y a justement, comme je veux absolument éviter la catharsis, le plus dur, c'est d'arriver souvent à faire passer à une personne quelque chose sans la secouer. Il est évident, par exemple, qu'il y a un blocage, c'est la culpabilité d'exister. Donc, ça laisse supposer qu'on n'était pas désiré. Mais une personne peut très bien n'en avoir eu aucune conscience, parce que les parents, peut-être, en le voyant naître après, ont été en adoration devant ce bébé. Seulement, lui, in utero, il a ressenti ce qu'il n'était pas désiré. Et il y a une culpabilité d'exister qui est là. Mais vous n'allez pas balancer ça dans la gencive de quelqu'un. Hop, tiens, je trouve la culpabilité d'exister. Donc, c'est tout cet art de la verbalisation, avec beaucoup d'amour, en fait, qu'il faut apprendre par la suite. Pour de façon à amener l'information au cerveau de la personne pour qu'il l'expulse, mais sans secouer la personne. C'est tout un art après, mais ça s'apprend. Rien du tout. Hein. On appuie et le plus vite possible en fait, hein. Puisque plus on va aller vite, moins on va avoir besoin d'appuyer fort. Puisque ce qu'il faut, c'est que pendant une fraction de seconde, les 5 points soient actifs en même temps. Si on va très vite, eh bien, on peut appuyer beaucoup moins fort. Par contre, si on hésite beaucoup pour trouver le point, là, il faut appuyer relativement fort. Mais vous voyez, moi, je sais que ça. Moi, je fais des démonstrations des fois dans les stages. Hein, on me dit, bon, ben, les circuits les plus importants à faire le matin, le truc incontournable, hein, c'est le 2, le 3 et le 7, c'est-à-dire le mental négatif. Parce que pendant la nuit, on se charge de toutes les formes pensées qui tournent autour du monde. Donc, on se réveille automatiquement en mental négatif. Avec en plus tout ce qui est véhiculé par les médias, etc. Donc il y a le mental négatif, l'anxiété, et puis le 7 qui recharge en positif. Ça, c'est on se lave les dents le matin, on se lave le cerveau le matin, c'est incontournable. Mais je vous assure que je fais l'expérience devant n'importe qui. Il faut 1 minute 40 pour les faire, les trois, une fois qu'on connaît bien. Donc ça vous demande 1 minute 40 dans la journée pour vous mettre bien. Vous voyez, on peut aller très vite. Ah mais bien sûr, ça peut aider. Alors, d'abord, bon, il y a la question des blocages, hein, parce que souvent, dans l'insomnie, on va avoir la peur de la nuit ou la peur d'être agressé. N'oubliez pas que la première peur de nos ancêtres, c'était d'être agressé pendant la nuit, quand il n'y avait pas le feu, tout ça. Donc, très souvent, la peur d'être agressé va entraîner le fait qu'on va avoir un petit peu de mal à dormir. Mais sinon, si on se réveille, par exemple, la nuit, si on se fait. Non, on ne sort pas de la couette, hein, on se fait le circuit 4. Qui est celui contre l'obsession. Puisque on va se mettre à refaire marcher le petit vélo, c'est ça qui va empêcher de s'endormir. Donc on fait le 4 et le 3 dans la foulée, 5 minutes après, on se rendort. Vous voyez, donc ça. Et bien sûr, on a tout intérêt, si on a eu une journée lourde, à se faire le circuit contre la dépression pour lâcher la pression qu'il y a sur nous, et le circuit contre l'anxiété, et fatalement, on va s'endormir beaucoup mieux. Bien sûr que ça va agir sur l'insomnie. Mais il ne faut pas oublier que l'insomnie peut être un système de défense, que des fois, donc, il faut effacer comme un blocage. Parce que c'est veiller, c'est un système de défense qui. Vous savez, les deux principales peurs de nos ancêtres, et qu'on retrouve beaucoup dans les blocages, c'est la peur d'être agressé, et puis la peur de crever de faim. Nos ancêtres, ils mangeaient des racines, hein, des fois. Il y a eu une famine dans l'an 1200 et quelques, il y a les 3 quarts de l'Europe qui sont morts. Hein, on l'a oublié, cette histoire-là. Eh bien, donc. Ces peurs-là, elles sont dans votre cerveau reptilien. Donc, bien souvent, quand vous avez de l'anxiété, le cerveau reptilien, il n'analyse pas la cause de l'angoisse. Il dit, il y a un risque de famine, il faut stocker. C'est pour ça que les gens anxieux vont prendre du poids. Seulement, le problème, c'est que comme, voyant qu'ils prennent du poids, ils font du régime, le cerveau reptilien, il dit, ben voilà, la famine, stockons encore plus. Et c'est comme ça qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Je regarde si on déborde pas. Non, je pense qu'on a encore 2 minutes. Oui. Ouais. Ben vous les avez là si vous voulez les regarder. Très Daniel. Et alors, je vous dis, la différence par rapport à l'EFT, c'est que justement, donc on va ratisser beaucoup plus large. Alors que l'EFT, il y a besoin d'une cible, ceci dit, ça marche bien, et en particulier sur les phobies. Le MDR aussi, ça marche bien, j'aime beaucoup le MDR, mais le MDR, souvent, secoue pas mal. Mais le MDR est très efficace sur les images obsessionnelles, ça c'est sûr. Vous avez entendu parler de l'EMDR. Hein, voilà. Donc, hein, vous avez su. Voilà. Et cette histoire d'ailleurs, quand je vous parlais de l'amygdale et tout ça, mais en fait, c'est reparti des découvertes d'Edwige Shapiro par rapport à l'EMDR. Puisque Edwige Shapiro, en 1987, c'est une psychiatre américaine, elle s'est demandé pourquoi, quand les gens rêvaient, leurs yeux faisaient comme ça. Et donc, elle a mis quelqu'un sous une IRM et elle a vu s'allumer d'abord l'amygdale et après le cortex préfrontal. C'est comme ça qu'on a commencé à comprendre que quand les yeux faisaient comme ça, eh bien, les émotions bloquées dans l'amygdale étaient chassées et elles étaient captées ensuite par le cortex préfrontal. Je ne sais pas à quelle heure il faut qu'on lâche la place, mais je pense que ça va être bientôt, je pense. Voilà, ben il est 40. Donc, ben écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir eu la patience de venir m'écouter. Et puis, merci. Merci. Et si vous avez d'autres questions, moi, je vais me rendre au stand justement de chez Trédaniel, là, puisqu'ils ont un stand ici. Donc, je veux bien continuer à répondre à vos questions là-bas pour libérer un peu la place pour les personnes qui viennent après. Merci en tout cas.